Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia. Au Mali, six jeunes de Talataï, localité située entre Gao et Benaka, ont été tués jeudi dans une frappe décrite par la force française Barkhane comme visant des djihadistes alors que des notables locaux parlent de simples chasseurs tués alors qu'ils traquaient le gibier. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'une intervention aérienne donne lieu à des versions aussi opposées de la part de l'armée française et de locaux. Au moins 13 personnes ont été tuées mercredi au Niger au cours d'attaques contre trois villages de la région de Tillabéri, proche du Mali, selon les autorités locales. Un bilan précédent faisait état de 11 morts. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est cette escalade de violence et d'insécurité qui se propage au niveau de la région. Prélèvement de la zakat, un impôt islamique. Enlèvement du bétail et aujourd'hui, c'est la population civile qui est massacrée, a dénoncé Tidjani Ibrahim Katiela, le gouverneur de Tillabéri, lors d'une rencontre avec les habitants des villages visés. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé jeudi la victoire, je cite, définitive du parti au pouvoir aux législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire et annoncé la reprise du scrutin dans six circonscriptions, a indiqué la commission électorale indépendante. Au Sénégal, sitôt libéré, l'activiste Guy Marius Sagna renoue avec la diatribe contre le pouvoir du président Macky Sall et l'influence française dans son pays. Claire Morin-Gibourg nous en parlera. Un Mauritanien qui rêvait, selon sa famille, de poursuivre ses études aux États-Unis a réussi jeudi à s'infiltrer dans un avion stationné sur l'aéroport de Nouakchott avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Équipement a dit que le jeune homme était connu des services de police et souffre de problèmes mentaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les défaillances qui ont causé cette faille sécuritaire et pour y remédier à l'avenir, a-t-il dit à la télévision nationale. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé vendredi que l'Érythrée allait retirer ses troupes de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, où Addis Abeba a lancé une opération militaire en novembre pour en déloger les autorités dissidentes. C'est le résultat, a-t-il dit, de ses discussions à Asmara ce 26 mars avec le président Isaias Afwerki. L'Union européenne, confrontée à des problèmes de livraison de vaccins au cœur d'un vif différend entre Bruxelles et Londres, s'est dite prête jeudi à bloquer les exportations d'AstraZeneca lors d'un sommet virtuel auquel a participé le président américain Joe Biden, qui a annoncé le doublement de son objectif de vaccination lors de sa première conférence de presse à la Maison-Blanche. Nous y reviendrons avec Michel Joseph. Un incendie s'est déclaré dans un terminal pétrolier saoudien qui a été touché par un projectile, a annoncé vendredi le ministère saoudien de l'Énergie. Une attaque qu'il a qualifiée de lâche et dirigée aussi contre l'économie mondiale et la sécurité globale en matière d'énergie. Lundi, Riyad a proposé aux rebelles houthis du Yémen un cessez-le-feu sous supervision des Nations Unies, appel que les houthis ont rejeté. En Russie, torture par privation de sommeil et forte douleur, le camp d'Alexei Navalny a dénoncé jeudi de graves menaces pesant sur la vie et la santé de l'opposant russe incarcéré en réponse au service pénitentiaire qui juge au contraire son état satisfaisant. En Birmanie, les forces de sécurité ont ouvert le feu jeudi sur des manifestants descendus en nombre dans les rues, la junte au pouvoir voyant de son côté ses intérêts financiers visés par des sanctions de Washington et de Londres. En Californie, un médecin qui exerçait sur son campus est accusé d'abus sexuels sur des centaines de femmes lors d'examens gynécologiques et l'université USC de Los Angeles a accepté de verser au total plus d'un milliard de dollars aux plaignantes en échange de l'arrêt des poursuites au civil. Le Monde aujourd'hui, VOA, Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. Ici à Washington, le président Joe Biden a annoncé hier dans sa première conférence de presse qu'il envisageait de se représenter à la présidentielle de 2024. À 78 ans, il a attendu beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs pour participer à cet exercice périlleux dans la prestigieuse East Room de la Maison-Blanche, avec un nombre limité de journalistes en raison du coronavirus. Le point avec Michel Joseph.
La réponse est oui. Je prévois de me présenter à ma réélection, a déclaré le président américain âgé de 78 ans. À une journaliste qui lui a demandé s'il choisirait de nouveau Kamala Harris comme colistière, il a répondu « Je m'attends absolument à ce que cela soit le cas. Elle fait un très bon travail. » Le président américain a mis l'accent sur la lutte contre le COVID-19.
« And the most urgent problem facing the American people, I stated from the outset. »
J'ai dit d'emblée que les problèmes les plus urgents pour le peuple américain étaient le COVID-19 et la crise économique. L'objectif initial était 100 millions de doses de vaccins contre le coronavirus au cours de ces 100 premiers jours. Joe Biden a revu son ambition à la hausse.
Now today I'm setting a second goal, and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots.
Nous aurons procédé à 200 millions d'injections d'ici mon 100e jour en fonction, a-t-il promis, en vantant son gigantesque plan de relance de 1900 milliards de dollars. Le 46e président américain a relativisé l'afflux de migrants, estimant que cela arrivait tous les ans. Il a confié mercredi à sa vice-présidente Kamala Harris la gestion de ce dossier ultra sensible. Quant à la politique étrangère, sans annoncer sa décision finale, Joe Biden a laissé entendre qu'il ne respecterait pas la date butoir du 1er mai pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Concernant la Corée du Nord, qui vient de tirer 2 missiles balistiques, il a lancé un avertissement. Il y aura des réponses s'ils choisissent l'escalade. Enfin, il a réaffirmé qu'il ne voulait pas de confrontation avec la Chine. Une semaine après, un premier échange très musclé entre son équipe et les chefs de la diplomatie chinoise.
Au Sénégal, Guy Marius Sagna, une des figures de la récente contestation, est sorti de prison hier. Il a aussitôt renoué avec son discours farouchement hostile aux intérêts français et européens dans le pays. Claire Morin-Gibourg.
À peine sorti de prison, Guy Marius Sagna a convoqué la presse pour lancer une diatribe contre le président Macky Sall, l'accusant d'être au service de ses maîtres impérialistes. Le chef de file du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine est sorti de prison mercredi après avoir passé un mois en détention. Il a été arrêté le 22 février dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko. Il a rappelé que c'était son troisième mandat de dépôt en moins de 3 ans, sans compter les nombreuses interpellations. Guy Marius Sagna et d'autres militants ont été arrêtés parce qu'ils préparaient des manifestations de soutien à M. Sonko, qui a été placé en garde à vue, puis relâché dans le cadre d'une enquête pour viol présumé. Son arrestation avait déclenché de violents affrontements à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises. Depuis, différents leaders religieux et politiques, dont le président Macky Sall, ont appelé à la décrispation. Ousmane Sonko a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Guy Marius Sagna et plusieurs autres détenus ont ainsi été relâchés.
La Minute Éco. Claire Morin-Gibourg.
L'Agence américaine pour le commerce et le développement vient d'annoncer le financement à hauteur de près de 933 000 dollars, soit près de 518 millions de francs CFA, d'une étude de faisabilité d'un projet visant à connecter plus de 100 000 ménages à des mini-réseaux d'énergie solaire dans les zones rurales du Cameroun. Le projet s'appuie sur une solution innovante de stockage sur batterie d'une société camerounaise, REIC, qui travaille en partenariat avec un fournisseur basé en Californie. Il s'agit du premier projet du genre financé par l'USTEDA au Cameroun. Les travaux du chemin de fer Burkina-Ghana devant faciliter le transport de quelques 3 millions de passagers et 17 millions de tonnes de fret par an vont être lancés au premier trimestre 2022, a annoncé hier le ministre burkinabé des Transports, Vincent Dapilgou. Le coût de cette liaison ferroviaire longue de 1102 km, dont 320 km au Burkina, est estimé à environ 4,7 milliards d'euros. Le Forum des dirigeants africains sur la richesse souveraine et les fonds de pension a annoncé le lancement de son initiative AGIB, la banque panafricaine d'investissement dans les infrastructures vertes. AGIB a mobilisé environ 20 milliards de dollars auprès des partenaires d'investissement du G7 et du G20 et cherche à lever 3 à 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels et de gouvernements africains. Cette banque a été fondée sur le modèle réussi de UK Green Investment Bank, qui a été lancée avec 5,2 milliards de dollars de capitaux publics.
Les sports à présent avec Pagasikoura.
Bonjour à tous. Les Comores et la Gambie se sont qualifiés hier pour leur première Coupe d'Afrique des Nations, au même titre que l'Égypte, septuple vainqueur de la compétition, le Ghana, autre puissance continentale, et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Grâce à leur match nul 0-0 face au Togo, les Comores comptent désormais 9 points, tout comme l'Égypte, actuel leader du groupe G, qui a ramené le nul un but partout de Nairobi. Les Kenyans, troisième avec 4 points, ne peuvent plus rejoindre les Sulacantes ni les Pharaons. La qualification historique des Comores, qui n'a pas réussi à marquer malgré une domination d'ensemble, a déclenché une explosion de joie parmi les milliers de personnes autorisées au stade de Malouzini. L'Égypte, elle, a pris l'avantage sur le Kenya par un but précoce de Mohamed Afcha Magdi avant que les hôtes n'égalisent par Hassan Abdallah en seconde période. La Gambie participera également à sa première CAN en janvier prochain après qu'un but d'Hassan Cissé lui a permis de battre l'Angola 1-0 à Bakao, ville située à l'est de la capitale gambienne, Banjul. Elle sera rejointe dans le groupe D par le Gabon qui a battu la RDC 3-0, c'était à Franceville. Le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, ayant inscrit le dernier but, le Ghana s'est également qualifié dans le groupe C après avoir ramené de Soweto un match nul d'un but partout face à l'Afrique du Sud. Les Black Stars ont d'abord marqué par le joueur d'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus, avant que les Bafana Bafana ne reviennent au score par Percy Tau. Et puis l'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, a exprimé son souhait de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo avec les Pharaons en juillet ou prochain, a affirmé jeudi le sélectionneur et ancien joueur égyptien Shawki Gharib. J'ai fait savoir publiquement que j'aimerais l'avoir avec nous pendant notre campagne olympique et il n'a pas refusé, ce qui veut dire qu'il veut aussi jouer avec nous, a dit Gharib à l'AFP, ajoutant que la décision tripartite sera prise entre Salah, l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, et Gharib lui-même. Malgré les performances mitigées cette saison de Liverpool, actuel septième du classement, Salah est avec Harry Kane le meilleur buteur de la Premier League avec 17 réalisations. Et puis enfin, la Confédération brésilienne de football a décidé de limiter les changements d'entraîneurs au cours d'une même saison en première division dans le pays champion du monde de la valse des entraîneurs. La nouvelle règle approuvée mercredi lors d'un conseil réunissant les représentants des 20 formations de l'élite du foot brésilien stipule que les clubs ne pourront limoger qu'un entraîneur par saison. Un deuxième changement ne sera possible qu'en interne, à condition que le nouvel entraîneur soit déjà un employé du club depuis 6 mois. Les entraîneurs, eux, ne pourront démissionner pour rejoindre une autre équipe qu'une seule fois dans la saison, mais seront libres de retrouver un nouvel employeur à chaque fois qu'ils seront limogés.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté de 3 millions en 3 mois à cause des multiples attaques contre des écoles. La région du Nord est aussi affectée par de violents conflits liés à l'accès à la terre. Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.
Depuis l'enlèvement des écolières de Chibok, le Nigeria a connu plusieurs enlèvements massifs au fil des ans, soit par des bandits, soit par des militants islamistes. Les derniers incidents faisant craindre qu'aucune école ne soit sécurisée. Le nombre d'enfants non scolarisés du pays ces dernières années était estimé à 11 millions, selon l'UNICEF, faisant du Nigeria le pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne. Kamilou Fagué est professeur de sciences politiques à l'université de Kano dans le nord du pays.
D'abord, il faut retenir qu'il y a une grande différence entre le sud et le nord sur le plan de l'éducation, dont la crise dans le nord-ouest et le nord-est a rapidement augmenté le nombre d'enfants non scolarisés dans ces régions. C'est quelque chose qui va continuer à augmenter cette différence.
Des centaines d'écoles ont été forcées de fermer dans le nord du Nigeria en raison des attaques des groupes armés. Cela fait plus de 10 jours que les 39 étudiants enlevés à l'Institut forestier de Kaduna sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, obligeant les parents des étudiants enlevés à descendre dans les rues pour réclamer le retour de leurs enfants. Linda Agbou a sa fille parmi les étudiants enlevés.
Écoutez nos cris et aidez-nous. Aidez-nous à intervenir auprès du gouvernement. Ils doivent se lever pour nous aider. Ils doivent venir à notre aide.
Chaque fois que des enfants sont emmenés de leurs écoles par des hommes armés dans le nord du Nigeria, l'épisode des filles de Chibok est mentionné. Le gouvernement ne semble pas encore avoir de stratégie pour empêcher ces incidents de se reproduire. L'ambassadeur pour la paix et la bonne gouvernance, Ahmad Souleyman, manque de mots pour décrire ce qui se passe.
Les mots me manquent. C'est vraiment triste. C'est vraiment touchant. Mais ce qui est plus touchant, ce n'est pas pour ce qui est arrivé, mais pour ce qui va se produire encore. Le même cycle se répète et cela, c'est parce que les Nigérians n'ont pas encore appris la leçon. Et tout cela est devenu un jeu de chantage.
Depuis décembre 2020, des gangs à la recherche d'une rançon lucrative ont enlevé un total de plus de 700 élèves de leurs pensionnats et autres établissements d'enseignement du nord du Nigeria dans au moins 5 incidents distincts. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, nombreuses réactions au lendemain de l'annonce du ministre de l'administration territoriale pour fermer des églises pentecôtistes et arrêter certains de leurs leaders qui ne respectent pas les mesures barrières contre le Covid-19. Certains Camerounais pensent qu'il s'agit d'un acharnement contre ces églises, tandis que d'autres estiment que cette décision est nécessaire. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julta.
On nous impose dans le monde une pensée unique. Ou vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous ne ferez partie des bons citoyens.
Pasteur Franklin Yebga de la mission de sainteté africaine ne décolère pas suite à la menace de fermeture des églises pentecôtistes qui ne respectent pas les mesures barrières.
Ma position reste la même. Elle ne va jamais changer. Que je sois en prison, arrêté ou pas, je dis, avec les chiffres que nous avons, 58 millions de morts dans le monde par an, malgré ce que nous avons reçu comme chiffre avec les médias, nous sommes environ 2 millions de morts et plus de Covid.
Ce pasteur qui cumule 25 ans de ministère et coiffe une trentaine de chapelles sur l'ensemble du territoire national dénonce une théorie du complot.
Cameroun parle de 588 environ, 0,02% par rapport aux graves maladies. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes, par exemple, problème d'eau. Ça allait au nord, les gens n'ont pas d'eau. Ça allait sur Mbamikim, les gens n'ont pas d'eau. C'est pas que nous avons fait les forages. Je pense qu'il y aurait mieux ailleurs, n'est-ce pas, de nous imposer une pensée unique.
Le relâchement dans les mesures barrières n'est pas qu'une affaire des églises pentecôtistes.
Monsieur le ministre doit également faire une note pour les bars, pour le marché Mokolo, le marché Nfundi, le marché Nvorombi. Je passe à côté de ce marché tous les jours. Je ne vois aucune personne avec le masque sur les narines. On ne pense même pas à ça.
Docteur Tchala Essomba est considéré comme l'une des figures de proue du pentecôtisme au Cameroun. Il draine de nombreuses foules à Yaoundé.
J'ai exigé à mes oreilles de venir au culte avec les masques. Nous avons une salle de 10 000 personnes. Ça veut dire que vous pouvez mettre 1 000, vous pouvez mettre 5 000. Nous avions également placé les seaux, les gens lavent les mains. Ça veut dire que nous respectons les règles barrières exigées par l'administration camerounaise.
On estime à un peu plus de 2 millions le nombre de Camerounais membres des églises pentecôtistes. Le COVID-19 étant un problème de santé publique, un laisser-aller dans le contexte actuel serait fatal, selon ses habitants de la capitale.
Le passeur qui se lève pour dire que le corona n'existe pas, moi je pense qu'il est en train d'amener même ses fidèles dans la perdition. Le ministre a vraiment pleinement raison de dire que leur église sera fermée.
Nous voyons comment le COVID agraine. Les morts et un passé qui dit que non, on ne peut pas boire les remèdes ou on ne peut pas faire les mesures barrières. Il n'est pas vraiment, ce n'est pas bien.
D'autres Camerounais estiment que la méthode du ministre de l'administration territoriale est sujette à bien de questionnements. Albert Hassan travaille pour le secteur privé.
Fermer tout de suite, à mon sens, serait un peu sévère. Il y a d'abord un devoir de sensibilisation, d'information. Si on ne respecte pas ces deux aspects, on pourrait avoir l'impression que l'État a un problème autre ou bien un problème particulier avec ces églises. Et vous savez que ce sont des Camerounais qui sont quand même également les fidèles de ces églises. Des Camerounais qui ont besoin également de pouvoir croire en leur Dieu.
Sous la contrainte de respecter désormais les mesures barrières, certains pasteurs entendent se concerter avec leurs fidèles pour décider de la conduite à suivre. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ce mois de mars consacré aux droits des femmes nous amène au Sénégal où deux femmes se sont plongées dans le domaine très fermé de la mécanique automobile. À Dakar, le garage Fatou Fatou est dirigé par Fatou Camara et Fatou Silla depuis 2005. Des mécaniciennes qualifiées qui font le même travail que les hommes tout en assumant leur statut de femme et de mère de famille. Partons à leur rencontre à travers ce reportage de Sedina Abagué.
Très tôt dans la matinée, les deux Fatou sont déjà au taquet. En uniforme de travail, elles réparent une Mercedes blanche de modèle récent. Fatou Camara et Fatou Silla sont les fondatrices et les gérantes de ce garage mécanique automobile spécialisé en Mercedes. Un atelier qui tourne depuis 2005 avec des femmes qui ont une expérience de 26 ans. Alors, pourquoi la mécanique?
Parce que la mécanique, c'est passionnant comme métier. Depuis toute petite, on aimait ce métier. On aimait faire la bricole.
Fatou Camara est mariée et mère de plusieurs enfants. Malgré l'exigence de son métier, elle arrive à concilier son rôle de chef de garage et d'épouse.
Oui, je suis madame Paye. Pour moi, il n'y a pas de problème. Être femme mécanicienne ou être femme docteur, c'est pareil pour moi. C'est pas difficile. Quand on est au garage, tu vas faire ce que tu dois faire, c'est de travailler. Arriver à la maison, tu es une femme au foyer. Il suffit seulement d'avoir un mari qui te comprend. Si tu as un mari qui te comprend, tu peux gérer tout ça. C'est pas difficile à faire. Tout dépend de l'homme et de la famille aussi.
Sa sœur et collaboratrice Fatou Silla a suivi la série académique S3. Elle a acquis une grande expérience lors de son passage dans le garage. Elle avoue être qualifiée de garçon manqué à cause de son métier, une appellation qui ne la dérange guère. Elle en rit plutôt car elle a un mental fort. De plus, elle aime son métier.
La mécanique, c'était réservé aux hommes. Mais maintenant, tu vois beaucoup de femmes qui font ce métier. Moi, personnellement, on me taxe de garçon manqué, mais ça ne me gêne aucunement. Au contraire, je suis fière. Parce que pour moi, la mécanique, c'est dans la tête. Donc, pour moi, tout ce qu'on peut, la femme peut le faire. Et j'ai pas de problème dans ma famille, parce que mon père et ma mère m'ont soutenu jusqu'ici. Et que j'avoue que c'est un long chemin et c'est pas facile. Parce qu'à chaque fois, je dis que la mécanique, ça s'apprend au jour le jour. Avec les nouvelles voitures, la technologie. Mais pour moi, tout ce que, si tu veux quelque chose, tu peux arriver.
Fatou est célibataire. Pour elle, le mariage viendra au moment opportun. En ce mois de mars dédié aux femmes, voici le message qu'elle envoie à la gente féminine.
Je conseille aux jeunes filles de redoubler d'efforts, de tenir bon. J'attends. Peut-être que moi, je me dis à chaque fois que c'est le jour, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide et que j'attends le bon Dieu.
Fatou Camara et Fatou Silla sont devenus incontournables dans le secteur de la mécanique automobile à Dakar. Leur garage, nommé Fatou Fatou, est parvenu à avoir une notoriété et une reconnaissance des pairs et du public grâce à l'abnégation et au professionnalisme de ces deux femmes qui sont parvenues à briser les stéréotypes d'un domaine généralement réservé aux hommes. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Russie, les députés ont adopté mercredi une loi qui donne au président Vladimir Poutine le droit de se présenter à deux nouveaux mandats. Il devrait en théorie partir à la fin de son mandat actuel en 2024, mais il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. Éric Manirakidza a joint à Paris l'ancien ambassadeur de France à Moscou, le russologue Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS.
Quand Poutine a lancé cette réforme de la Constitution, il considérait que son pays traversait des temps difficiles, il y avait un effondrement des prix du pétrole à l'époque, c'était juste un peu avant le Covid, mais donc il y avait un ensemble de choses et qui pouvaient être estimées comme menaçantes, ou en tout cas sur lesquelles il s'est appuyé pour dire que finalement c'était lui le garant de la stabilité du pays et que sur cette base il serait mieux qu'il ait la possibilité de rester au pouvoir. Au départ d'ailleurs, les premiers projets de constitution, c'était un projet qui diminuait un tout petit peu les pouvoirs du président par rapport au Parlement, et à l'arrivée ça a été une constitution qui augmentait encore les pouvoirs du président et augmentait ses prérogatives et augmentait aussi une lecture très traditionnaliste de la société russe.
Et quel sera justement l'impact sur l'Europe et les États-Unis, par exemple, au cas où il restait jusqu'en 2036?
Il peut y avoir un impact très sérieux sur la société russe parce qu'il y a une usure du pouvoir qui est incontestable, même si la popularité de Poutine est quand même toujours à 60%. Donc s'il reste jusqu'à la fin, il y aura quand même un effet d'usure du pouvoir qui sera considérable et qui sera très probablement un élément d'instabilité dans la société russe. Ça, c'est en interne. En externe, non. En externe, il n'y a pas de conséquences particulières, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique de Poutine est marquée par la continuité, et c'est toujours les mêmes préoccupations, la même ligne qui est suivie, et qui est annoncée, et qui est suivie.
L'opposition russe, est-ce que vous la voyez dans une capacité de renverser la vapeur d'ici quelques années ?
L'opposition russe, pour l'instant, ne représente pas grand-chose. Donc on va voir aux prochaines élections législatives de septembre. Mais d'autre part, il y a deux oppositions. Il y a ce qu'on appelle l'opposition systémique, qui n'en est pas une, avec le parti communiste, le parti quasiment d'extrême droite, ce qu'on appelle le LDPR de Zhirinovski. Et donc ceux-là, ils sont pour l'instant trop pro-Poutine, en fait. Mais c'est une position qui pourrait tourner mal pour le régime, parce que le parti communiste est un peu énervé par la trop grande docilité de son chef, M. Zhuganov, vis-à-vis de Poutine, et on sent bien que les jeunes piaffent. Deux des grands leaders de l'opposition hors système, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas admis, qui n'arrivent pas au plafond de 5% et qui portent des idées mais ne sont représentés que de façon tout à fait minimale dans les instances régionales et en tout cas pas du tout à la Douma, c'est-à-dire au Parlement central, ces partis-là ne sont pas prêts à soutenir Navalny et ils l'ont fait savoir. Alors maintenant les choses peuvent bouger, évidemment, au bout de deux mandats supplémentaires, la situation peut s'aggraver, surtout si la situation économique est mauvaise. Mais pour l'instant, l'opposition n'est pas une force capable de déstabiliser le régime.
Joint à Paris, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Show me how to love, maybe.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.